en français, osez, O-S-E-E, chapitre 7, Bechavod, Rav Etan Shizur.
Voilà, est-ce que vous voyez bien là?
Parfait.
Yofi. Tov. Alors, les amis, Boker, enfin, non, Boker Tov, Erev Tov, les Koulam, Erev Tov, j'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes heureux parce que Oshéa va nous plomber la soirée. Voilà. Comme ça, au moins, ça sera dit. Si vous aviez prévu une étude qui nous donne le sourire, eh bien aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Parce que là, on rentre dans les tochechot de Hoshea. Alors, on avait déjà vu des tochechot, on avait déjà vu Hoshea qui dit qu'on n'est pas bien. Mais là, alors là, je ne sais pas de quel pied il s'était levé ce jour-là, mais la névoa qu'il reçoit, eh bien écoutez, les amis, on va essayer de voir de quoi on parle, on va essayer de comprendre à qui Hoshea s'adresse. On va voir si on peut quand même pas trouver une petite lueur d'espoir dans les paroles du prophète. Alors allons-y, Hoshea Perek Zayin. Ok? Osée, chapitre 7, verset Aleph. C'est parti. Keraf'il Israël, venigla avon Ephraim veraot Shomron, ki pa'alu shaker. Veganav Yavo, Pachad Gedoud Bachutz. Alors, de quoi parle-t-on? Comment est-ce qu'on rentre directement dans l'histoire de Hoshea? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Akadosh Baruch Hu commence à s'adresser à Israël par l'intermédiaire du prophète Hoshea et lui dit, hop, voilà, et lui dit, mais j'aimerais bien, moi, apporter la guérison d'Israël. J'aimerais bien tout ça. Mais tout d'un coup, au moment où je veux être sympa avec vous, se dévoile toute la, on va dire, pas la médiocrité, mais tous les défauts d'Israël. Tous les défauts d'Israël, quand on parle d'Israël, Rabotai, on parle de quoi? Rappelons-nous, on parle de Mamlechet Israël, c'est-à-dire des 10 tribus du Nord. Hoshea est un avis du Nord. Il est ch'ti. Ok? Il aurait pu parler de Mamlechet Yehuda, mais il se concentre sur le nord. Et donc, quand il nous dit « Venigla avon Ephraim », Ephraim, c'est le titre qu'on donne au royaume d'Israël. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que le premier roi de Mamlechet Israël, c'était Yerovam ben Nevat, qui était de la tribu d'Ephraim. Et donc, par extrapolation, à chaque fois qu'on voudra parler de du royaume du Nord, on appellera Ephraïm. Mais Ephraïm, c'est aussi plusieurs choses. Ephraïm, et c'est important de le souligner, c'est d'abord un bonhomme, le fils de Yosef. Et Ephraïm, rappelons-nous pourquoi Yosef l'appelle comme ça, qui frani Elohim be'eretz oni. C'est-à-dire, il s'appelle Ephraïm parce que Dieu l'a fait fructifier en exil. Donc quelque part, Ephraïm est quand même très attiré par l'exil. Et l'autre problématique de Ephraïm, c'est qu'il va rejeter Akadosh Baruch Hu. Traduit en manitouien, en langage de Manitou, Ephraïm, ça devient les Chilonim. Alors que Yehuda deviennent les Datiim dans le langage de Manitou. Donc la guerre, si vous voulez, entre Ephraïm et Yehuda qu'on trouvait dans le Tanakh, eh bien aujourd'hui, on la retrouve entre les Datiim et les Chilonim. D'accord? Ou bal yomeru lilvavam kol ra'atam zacharti ata sevavum me'allelehem neged panay ayum. Et ne venez pas dire, maintenant je mets tout le mal qu'ils ont fait, je m'en souviens, et je mets toute la dépravation devant mes yeux. Bir'atam yesamechu melech. Ils ont mis des mauvais rois et des mauvais ministres. Ça veut dire quoi? C'est quoi des mauvais rois? Des rois illégitimes. C'est-à-dire qu'on va voir qu'effectivement, même Mamlechet Israël, il y a une succession énorme de rois. Alors que dans Mamlechet Yehuda, on suit une seule dynastie, la dynastie de David. Mais dans la royauté d'Israël, toutes les 5 minutes, il y a un autre roi qui vient, qui tue le prédécesseur et qui prend le pouvoir à sa place. Kulam menafim kemotanur, boera meofe, yishbot meir, milush batsek ad chumtsato. Ça veut dire quoi ça? C'est un dimouille, c'est une parabole évidemment, qui nous dit ils sont tous brûlants, tel un four allumé, et ils n'arrêtent pas de pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle tourne. Ça veut dire quoi cette histoire? C'est-à-dire que non seulement ils font le mal, mais ils ne s'arrêtent pas de le faire. Yom malkenu echelu sarim chamat miyain mashach yado et lotzetim. Yom malkenu. Mais c'est yom malkenu. Il y a plusieurs avis dans nos sages de c'est quel yom malkenu, de quel yom on parle. Est-ce que c'est le jour du roi ou est-ce que c'est Rosh Hashanah? Shemamlichim et Akadosh Baruch Hu. Et donc normalement c'est Yom Malkenu, normalement. Mais de ce Yom Malkenu, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Echel usarim, chamat miyain, mashach yado et lotzetzim. Ils ne font que faire des festins, ils sont ivres, ils sont complètement pas là. Ki kerevu ketanur libam beorbam, kol alayla yashen ofeem boker. Attendez. סירה, כל הלילה ישן אופיהם בוקר ובוער כאש להבה. Ça veut dire quoi? Toujours on est dans cette dimouille, dans cette parabole de celui qui prépare la nourriture. Lama, pourquoi est-ce qu'il faut que ça reste toujours dans cette parabole de celui qui donne à manger? Ephraim, mamlechet Israël, par opposition à la mamlacha du sud, à la mamlacha de Yehuda, avait une abondance matérielle incroyable. D'ailleurs, en termes de matières premières, vous regardez la carte d'Israël, la royauté de Yehuda, c'est de Jérusalem au sud. Ah, il n'y a pas grand-chose en terre, enfin, il y a un petit peu quand même, on ne va pas dire que c'est le désert, mais il y a quand même vachement moins de matières premières et de possibilités de culture dans cette région-là que dans la région de Jérusalem vers le nord. Donc effectivement, Mamlechet d'Israël était beaucoup plus dans l'abondance matérielle que Mamlechet Yehuda. Agav, entre parenthèses, et là je fais une parenthèse très importante, c'est une parenthèse, vous me permettrez, mais elle est fondamentale à mon sens. Vous savez, depuis qu'on a détruit le Beth Amikdash, on a perdu plusieurs choses. On a perdu, pendant 2000 ans, on avait perdu Jérusalem, on l'a retrouvé. On a perdu la dimension de Beth Amikdash, mais on a perdu également, depuis beaucoup plus longtemps, Shomron. On a perdu la Mamlechet Israël. Et autant dire que le peuple juif a gardé une place très importante pour Jérusalem. Jérusalem, le Shana Abba, Birushalayim, tout ce que tu veux. Mais on s'est quand même vraiment détaché de Mamlechet Shomron, de ce que représente Mamlechet Shomron, à savoir l'abondance matérielle. Et il faut bien se rappeler qu'on ne retrouvera pas de véritable plénitude tant qu'on n'aura pas réussi à corriger Ephraim. Corriger Ephraim, ça ne veut pas dire ne plus en parler. Ça veut dire corriger. Maintenant, puisqu'on a dit que Ephraim était avec l'abondance matérielle, mais que d'un autre côté, il se comporte en ayant complètement abandonné Dieu, quel est le risque? Quel est le risque? Je vais vous dire on va essayer de comparer ça avec aujourd'hui. Quel est le risque pour, on va dire, un juif religieux actuellement, quel est le risque qu'il s'assimile? Oh ben, il existe, mais il est quand même assez petit. Parce que même s'il va lâcher un petit peu, il va rester de manière générale, allez, il sera plus religieux, mais il sera traditionnaliste. Quel est le risque d'un traditionnaliste séfarade aujourd'hui au niveau de son assimilation? Bien, le risque, c'est qu'il fasse un peu moins de tradition, mais il sera toujours attaché, eh bien, au fondement même qu'il a reçu dans sa maison. Mais quel est le risque d'un Israélien riche dans le high-tech qui s'est détaché de la Torah? Son risque, il est très simple. Le risque de l'Israélien, aujourd'hui, en 2021, qui, Baruch Hashem, réussit très bien dans sa carrière, qui fait du high-tech et qui n'est pas dans la Torah, le risque, c'est que demain, il déménage aux États-Unis. Ou à Berlin, ou là, on lui proposera un poste à Singapour ou à Hong Kong. Là, on lui proposera un gros poste et il sera encore plus riche. Parce que lorsque Ephraim se détache de Yehuda, lorsque Ephraim se détache d'Akadosh Baruch Hu, il est fondamentalement attiré par ce dont il connaît les rouages. Il connaît les rouages de l'abondance, et bien il est attiré par l'abondance. Et l'abondance, elle est où? Ben dans les grands empires. Et c'est ce qui va amener Hoshéa à nous dire cette phrase absolument terrible. Ephraim, dans le pasuk Chet, Ephraim ba'amim ou yidbolal. Ephraim aya uga beli afucha. C'est terrible. Ce verset, il est terrible. Ephraim ba'amim ou yidbolal. Voilà le danger pour Ephraim de partir s'assimiler. Agav, c'est ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, ce sont les premiers qu'on a perdus dans l'histoire. Ephraim. Alors, les premiers, c'est pas à cause de l'exil. C'est pas à cause de Sanhérib. Les premiers, c'est tout simplement les tribus de Réhouven, Végad, qui se sont assimilés tout seuls comme des grands. Qui faisaient partie de Mamlechet Israël, mais qui ont été les premiers à s'assimiler complètement. Avant même que Sanhérib ne passe par là. Est-ce qu'il est possible qu'une fois qu'il arrive à Singapour, le juif qui s'est assimilé prenne contact quand même avec le Beit Rabbad de Singapour? Oui, oui, peut-être qu'il va aller prendre contact avec le Beit Rabbad. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui un jour va pouvoir le sauver. Mais dans la majorité des cas, c'est pas le cas. Parce que dans la majorité des cas, il va tomber sur quelqu'un qui lui dira « Il faut que tu choisisses mon ami. Ou t'es français, ou t'es juif. » Toute ressemblance avec un cas actuel, évidemment, serait purement fortuit et involontaire, bien évidemment. Mais à un moment donné, Ephraim, une fois qu'il est chez les Goïm, il ne peut plus rester Ephraim. Il se sent mal regardé quand il s'appelle Ephraim. À un moment donné, il est bien obligé de changer son nom en Ephraim. Il est obligé de s'assimiler. Donc nous dit ici le texte Ephraim ba'amim hu yidbolal. Ephraim aya uga beli afucha. C'est quoi uga beli afucha? C'est un gâteau que tu as oublié de tourner. C'est quoi un gâteau que tu as oublié de tourner? Bah, ça veut dire qu'en dessous il est cramé et au-dessus il n'est pas cuit. C'est-à-dire que ses fondations sont détruites et que son extériorité n'est pas faite. Donc il est complètement paumé, le bonhomme. Et vous comprenez à quel point les paroles du prophète résonnent aujourd'hui. Ok ? Achlou zarim kocho, veu lo yada, gam seva zar kalbo, veu lo yada. Il ne se rend même pas compte que les goyim profitent de lui et qu'ils sont en train de lui aspirer toutes ses forces vitales. Il y a un enseignement du Rav Kook dans le livre Orot HaMilchama. Dans le dernier chapitre de Orot HaMilchama, le Perek Yud, lorsque le Rav Kook nous dit que Razet Torah Lachitsonim Nimtzeru. Lorsque les secrets de la Torah ont été donnés au Goyim, à Torah Nisrefet, Gvilim Nisrafim Veotiot Porchot Ba'avir. Le parchemin brûle et les lettres s'envolent dans le ciel. Lorsque Am Israël se retrouve chez les Goyim vont puiser en nous bah, la force de vie qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Et nous, on s'en rend même pas compte. Vous vous rappelez de l'âge d'or d'Espagne? les Juifs d'Espagne, ce qu'on appelle Tourézaav. Moi, j'aimerais vous poser une question d'ordre purement historique. Combien de temps ça dure pour vous, Tor Azaav Besfarad, l'âge d'or des Juifs d'Espagne? Combien de temps ça dure?
Allez, c'est le moment de répondre.
C'est le moment de répondre.
En même temps que vous répondez, Raph Fizeau, est-ce que tu peux baisser un peu ta caméra?
Baisser ma caméra, alors, tout à fait.
Combien de temps dure l'âge d'or d'Espagne?
4 siècles.
4 siècles. Qui dit mieux?
Moi, j'ai dit 100 ans.
Toi, tu dis 100 ans? Alors, 100 ans ou 400 ans? Quelqu'un veut dire au milieu?
200.
Allez. Eh bien, la vérité, adjugé pour 100 ans. Ouais. Et effectivement, oui, quand on parle des Juifs d'Espagne, on entend du 11e au 14e au 15e, ouais, 14e, 15e siècle, jusqu'à l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Mais en vérité, le moment où il y a l'âge d'or des Juifs d'Espagne, eh bien, c'est entre les années 1100 et les années 1200. C'est tout. C'est à ce moment-là qu'il y a l'âge d'or des Juifs d'Espagne. Après ça, l'Inquisition, elle commence. À l'époque du Ramban, on est déjà en pleine Inquisition. Non, c'est plus l'âge d'or. Et ça va être une déchéance, léat léat décrescendo, qui va amener finalement à l'expulsion des Juifs d'Espagne. Mais pendant tout cet âge d'or, bah l'Espagne va puiser en nous, que ce soit dans le domaine de la morale, des sciences, des mathématiques, de la médecine, tout ce que tu veux, et également de la force de vie. C'est-à-dire, donc, c'est ce qu'on nous dit ici, « Achlu zarim kocho ve'u lo yada »« Ve'gam seva zarkabo ve'u lo yada » Alors, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, hop là, voilà. À ce moment-là, ve'anna ge'on Israël befanav, ve'lo shavu el Hashem Elohim, ve'lo bikshu bechol zot. Mazé, ve'anna ge'on Israël. Mazé, mi ze ge'on Israël? Ge'on Israël, c'est un avis. Un avis, il a essayé. Aval, ve'anna ge'on Israël befanav. Velo shavu el Hashem Elohim. On a essayé, les prophètes disent, mais ça n'a pas marché. Lo bikshu bechol zot. Vayi Ephraim kayona pota ein lev. Mitzrayim karaou. Ashur alchu. Ma? Ephraim, on a dit, c'est Am Israël. C'est le côté nord de Am Israël. On nous dit kayona pota. Mais c'est kayona. Am Israël est comparé très souvent dans les prophètes à la Yona, à la colombe. Pourquoi on est comparé à la colombe? Alors il y a un bilboule entre la colombe aujourd'hui et la colombe à l'époque. C'est-à-dire que aujourd'hui la colombe c'est un symbole de paix. Mais à l'époque du Tanakh, c'est pas, et du Talmud d'ailleurs, c'est pas un symbole de paix. C'est un symbole de Ne'emanout, de fidélité. Je ne sais pas si c'est vrai au niveau zoologique, mais on dit que les colombes ont des couples. Par opposition aux autres animaux qui ont des partenaires pour se reproduire, la colombe aurait un mari qu'elle garde. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau zoologique, mais c'est la légende du moins. C'est-à-dire que la Yona, c'est un symbole de fidélité à Kadosh Baruch Hu. De fidélité à son identité. Et là, on dit, veillez, Ephraim, kayona, pota, enlev. Normalement, on devrait être fidèle. Et non, on a complètement rejeté, enlev. Mitzrayim, karaou, ils ont appelé à l'aide, Mitzrayim. Quand ils se sont sentis en danger, parce que, effectivement, Ashur était en train de nous menacer, au lieu de s'en remettre à Kadosh Baruch Hu, on a été appelé l'Égypte en secours. Mais ça ne servait à rien, sauf Ashur alachu. Kasher yelechu eferos alehem rishti keof hashamayim. Horidem aysirem keshema ledaatam. Leadatam, c'est ça. Keshema leadatam. Alors qu'est-ce qu'il est en train de nous dire à Kadosh Baruch Hu? Ils partent en exil. Nous, ve, azma. Ils partent en exil, et à ce moment-là, je vais jeter mon filet de chasse sur eux. Ils seront pris comme des oiseaux en cage. Et à ce moment-là, je vais m'occuper d'eux. C'est quoi, je vais m'occuper d'eux? Eh bien, s'il faut frapper, eh bien, je frapperai. Est-ce que ce verset est positif ou il est négatif? Donc Dieu nous prend dans ses filets. Mais c'est bien ou c'est pas bien? Ça nous fait mal. Mais, c'est vrai, ça fait mal. Mais d'un autre côté, on est dans les filets d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, nous dit ici le Navi, nous dit le Navi au nom de Dieu, il dit, j'ai envoyé des gens pour vous parler, ça ne marche pas, mais je ne suis pas prêt à vous laisser vous envoler. Donc je vais quand même faire quelque chose pour que vous restiez attachés. C'est quoi? Ben vous aurez mal. Et en quoi ça va me garder attaché? Parce que tu croyais que tu allais pouvoir t'assimiler chez les goïms? T'inquiète pas, les goïms, ils vont te rappeler que tu es juif. Les goïms, ils vont pas te laisser devenir un véritable goï. C'est pour ça qu'il me fait marrer, Eric Zemmour. Ah, je suis désolé de parler politique. Mais ça me fait marrer. Je sais pas s'il sera élu ou pas, s'il va gagner ou pas. Mais à un moment donné, que ce soit avant les élections, pendant les élections, après les élections, à Bataille, à un moment donné, on va le ramener à son judaïsme. Et mal à la saute. Oi laem, kinadedu mimeni. Shod laem ki pashubi va nochi evdem vema dibru alai kezavim. Quoi, je vais moi les sauver après tout ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une interrogation qui dévoile aussi une exclamation. Oi laem ki nadedu mimeni, ils se sont détournés de moi. Shod laem ki pashubi, ils vont être pillés à cause de ce qu'ils ont fait. Va Anochi Evdem? Oui, Anochi Evdem. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est-à-dire que ce verset, il est à double compréhension. D'un côté, ah quoi, je vais les sauver? Mais au final, oui, je vais les sauver. Veloza ku elai velibam ki yeyelilu al mishkevotam al dagan vetirosh yit goraru yassurubi. ואני יסרתי, חיזקתי זרו אותם, ואליי יחשבו רע. C'est-à-dire que là-bas, non seulement ils s'éloignent, mais en plus, ils construisent toute une théorie pour dire que la relation à Dieu est mauvaise. Yashuvu lo'al, ayu keshet remiya, yiplu bacherev sareem, mizam leshonam, zol agam. Be'eretz Mitzrayim. Ils croient qu'ils vont réussir à se développer. Finalement, ils seront perdus et détruits. Be'eretz Mitzrayim. C'est quoi Be'eretz Mitzrayim? Comme lorsqu'on était Be'eretz Mitzrayim. Ce chapitre 7, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il vient nous apprendre que ici, Akadosh Baruch Hu vient dire à quel point il est déçu du comportement des Bnei Israël. Et cette déception, il la voit surtout dans, eh bien, l'assimilation d'une partie du peuple juif. Vous savez, nous dit le prophète Yechezkel, que les nations du monde, lorsqu'on est en exil, disent, Am Hashem Ele, Umearzo Yatzaou. Ça, c'est le peuple de Dieu. Mais pourtant, ils sont sortis de leur terre. Et ainsi, le Talmud nous dira, En Lecha, Chilou Lachem Gadol, mais à Galout. Le plus grand Chilou Lachem qui soit, c'est l'exil. Ben oui, forcément c'est l'exil. Parce que quand Am Israël part en exil, les nations ils disent, mais alors, vous nous avez pris la tête pour rien en sortant d'Égypte et en construisant votre pays ici. Ça c'est au niveau de chacun. Encore une fois, on a toujours dans Hoshéa cette balance entre l'individu et le collectif. Chapitre 8. El chikecha shofar, כנשר על בית השם, יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו. מה זה? על חיכך שופר. C'est-à-dire que tu as le chauffard à la bouche. Vous avez rappelé, on a commencé le chapitre 7 en parlant de Rosh Hashanah, qu'ils ont transformé en jour de libation. Al-Hikher ha-chauffard, tu as le chauffard à la bouche. Kanesher al-Bet Hashem Ya'an Avru Beriti. Au lieu de sonner du chauffard pour Rosh Hashanah, eh bien, vous vous présentez comme un aigle au-dessus de Bet Hashem pour l'Avor Beriti. Mais c'est l'Avor Beriti. Bah, oui, vous avez bien compris. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'assimiler? On parlait tout à l'heure d'assimilation. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'assimiler, Rabotai? Bah, il faut pouvoir ressembler au goy. Sinon, tu n'arriveras pas à t'assimiler. Mes grands-parents, allez, on ne va pas parler que d'Éric Zemmour, mais mes grands-parents, quand ils sont arrivés de Pologne, bah, il fallait s'assimiler. Qu'est-ce que ça voulait dire? Bah, d'abord, ça voulait dire apprendre à parler français. Fallait arrêter de parler yiddish. Et donc, si tu veux, on te dit, tu vas t'assimiler. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apprendre à parler la langue. Tu vas plus t'habiller comme un juif du shtetl. Tu vas t'habiller comme les goyim. Mais il y a un truc quand même. C'est qu'au final, il y a quand même un truc qui te sépare grandement des goyim. Vezé abrit. Si tu veux vraiment réussir ton processus d'assimilation, tzach la'avor berito. C'est-à-dire arrêter la brite. Li yizaku Elohai yedaanucha Israël. Alors quoi? Ils vont crier. Ils vont crier. C'est qui ils vont crier? Am Israël. Am Israël, des fois, il va dire, oh mon Dieu. Aval, Zanach Israël, Tov, Oyev, Yirdefou. הם המליחו ולא ממני, הסירו ולא ידעתי, כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יקרת. Comme on a dit tout à l'heure dans le chapitre 7, ils ont mis en place des rois que je n'ai pas choisis. Alors c'est bien gentil de dire qu'ils font ça au nom de Dieu, qu'ils se rappellent de Dieu. Finalement, ils font exactement l'inverse de ce que Dieu il leur demande. Zanach, Eglech, Shomeron, Chara Apibam. עד מתי לא יוכלו ניקיון? מה זה אגלך? C'est quoi les agalim de Shomron? Là, vous vous rappelez? La première chose qu'a fait Yerovam ben Nevat lorsqu'il a mis en place eh bien, la royauté d'Israël, il a fait construire deux agalim, deux veaux d'or, un à Bethel et un à Dan. Qui sont les frontières respectivement sud et nord d'Israël. Et donc ici nous dit Akadosh Baruch Hu Zanach Egler Shomron Chara Apibam. C'est contre toute la mamlacha que je suis en train d'être extrêmement énervé. Ki Israël veu chara shasau velo Elohim hu ki shovavim ye Egel Shomron. Au final, non seulement ça ne marchera pas, mais leurs agalim seront détruits en petits morceaux. Akadosh Baruch Hu, dans le chapitre 8, montre que ça va être lui le patron. N'en déplaise à ceux qui ont essayé de mettre en place un judaïsme alternatif. Ki ruach yizra'u vesufata yiktzoru kama en lo tzemach beli yaseh kemach ula yaseh zarim yivla'u. Tout ce qu'ils essaieront de faire, ils le récolteront au centuple, mais à l'inverse. Ki ruach yizra'u, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ils vont semer le vent, ils vont récolter la tempête. Oui, je m'arrête 5 secondes pour vous dire que cette expression française, que tout le monde connaît, eh ben, elle vient de là, les amis. Boker tov. Qui sème le vent, récolte la tempête. Dixit, Oshéa. Chapitre 8, verset 7. C'est-à-dire ? Vous en connaissez d'autres, des expressions qui viennent du Tanakh directement et qu'on utilise sans savoir qu'on utilise ?
Oui.
Par exemple ?
La prunelle de mes yeux.
la prunelle de mes yeux. Il y a fait meode. Et d'où ça vient?
Ah, je ne sais pas.
Ah, ça vient du prophète Ishayahu. Ah, oui. Une autre, plus facile encore.
Elle
pourra aller dent pour dent, Nachon. Elle pourra aller dent pour dent. Hein?
Qui va à la chasse perd sa place.
Qui va à la chasse perd sa place. Yaakov Vesav, il a fait méode. Bon, mais qui te sauve? Hein? Ouais. Vas-y, Anne.
J'ai dit peut-être la semaine dernière dans l'Aftara, il y avait le bouche à bouche. Peut-être ça vient de là aussi.
Ouais, je sais pas si c'est une expression, agave, entre parenthèses, d'après le Rambam dans Moré Nevouchim. C'est comme ça qu'il l'a ressuscité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là-bas d'un acte complètement surnaturel, il s'agit qu'il avait fait son Rianoun de Mada, c'est tout. Il était Magi Shezra Rishona, il était Chovesh, et donc voilà, il a fait une Achia, tout simplement. Ça a l'air. Fair enough. Attendez, je remets le texte. Hop là. Yofi, Nivla Israël, Atta, Ayuba Goyim, Kichli, En Chefetzbo. C'est-à-dire que non seulement Israël est parti en exil, ils sont en train de se noyer là-bas, aval, l'Afrad, En Chefetzbaem. C'est-à-dire que les nations, ils n'en veulent pas. Alors, ça veut dire quoi, ils n'en veulent pas? Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une première période où ils en veulent parce qu'ils sont en train de puiser l'énergie qu'ils peuvent puiser d'eux, et puis après, ils nous jettent. Quoi, je ne vais pas vous faire un historique de toutes les fois où les goïms nous ont expulsés de chez eux. Il y en a plein. Qui emma alou ashur pere bodedlo Ephraim itnu ahavim. Quand on est parti chez Ashur, eh bien, on était complètement comme un mulet. Un mulet sauvage. Non, c'est pas un mulet. Ouais, si, c'est un mulet. Non, c'est pas un mulet. Il y a un mot pour un âne qu'on n'arrive pas à apprivoiser? Je sais pas. Bon, c'est un âne sauvage, mais qui t'aura?
Onagre.
Comment tu dis?
Onagre. C'est des ânes sauvages.
Eh ben, alors, ok. Merci beaucoup. Merci pour onagre. Alors, ça sera onagre, alors. Très bien. Donc, on sera tel un onagre. C'est-à-dire solitaire, c'est-à-dire complètement détaché de tout le reste. Gam ki yitenu bagoyim, ata akabetsem, veyachelu me'at, mimmasa meler sarim. C'est-à-dire, même lorsqu'ils seront bagoyim, gam kshem yu bagoyim, moi, je ne les laisserai pas. Ils seront, submergé du travail donné par les goyim, mais moi, à Kabetsem. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous remarquez, qu'à chaque fois que Hoshea va très très loin dans la Tochecha, il glisse à chaque fois des mots pour dire « Ubechol zot, je suis là ». C'est quelqu'un qui dirait à ses enfants qui ont fait n'importe quoi, qui les disputent, mais entre chaque deux phrases, il dit « Mais je vous aime ». Mais tu vas quand même te prendre la punition, Chaval al-Azman. Mais je t'aime bien. Ki irba Ephraim misbechot lachato. Ayulo misbechot lachato. Ma, c'est quoi les misbechot en question? Eh bien oui, vous savez bien que normalement, d'après la halakha, lorsqu'il y a le Bet Amigdash, le seul endroit où on a le droit de faire des korbanot, c'est au Bet Amigdash. Ve Ephraim, eux, ils ont fait des misbachot à eux, ce qu'on appelle des bamot. C'est-à-dire, dans toute la Mamelechet d'Israël, au-delà des vaudors qu'il y avait à Bethel et à Dan, il y avait des autels de sacrifice toutes les 5 secondes. Ertov lo rubei torati, que mozar nershavu. Et c'est pas faute de pas leur avoir écrit. J'ai renvoyé des Nevim, ils ont écrit des Megillot. Mais c'est pour eux, c'était comme des paroles que personne ne pouvait entendre. Kemozar nershavu. Est-ce qu'on s'est jamais retrouvé devant cette situation aujourd'hui où on parle à un descendant de Ephraim ce, dans la bouche de Manitou, ce fameux Chiloni, tu lui parles des paroles de Torah, Vezener Shav, c'est pas un langage qu'il arrive à entendre. C'est pas audible. Zifre av avai, yizbechu basar veyochelu Hashem, lo ratzam. Ata yizkor avonam, veyivkot chatotam, hemma mitzrayim yeshuvu. C'est quoi cette histoire? Eh bien, ils font des sacrifices. Mais pourquoi ils font? Parce qu'ils ont envie de manger de la viande. Et non pas pour se rattacher à moi. En d'autres termes, il y a un folklore juif, mais il n'y a plus d'identité juive. C'est pas chou de kacha. Moi, je suis toujours... vous savez, il y a à Cracovie, il y a une fois par an, en juin, je crois, il y a le festival Klezmer de Cracovie. Alors, il y a le festival Klezmer à Tzfat. Mais à Tzfat, c'est d'Agamour. Parce que les gens qui jouent là-bas la musique, c'est vraiment des chassidim. Le festival Klezmer à Cracovie, c'est des goyim. Et peut-être qu'il y a un ou deux juifs dans les musiciens. Mais c'est du folklore juif, il n'y a plus du tout de juifs. Prenez par exemple, et ça c'est terrible, prenez par exemple la rue principale du quartier juif de Cracovie, en Pologne. Il n'y a plus un juif là-bas, il n'y a pratiquement pas Minyan. Mais pourtant, dans la rue principale, il n'y a que des restaurants et des hôtels marqués en hébreu. Et ils ne sont pas cachers. Mais c'est du folklore juif. Et pour les 2-3 juifs qui sont encore là-bas, c'est du folklore. Il n'y a plus d'identité derrière. C'est un vrai problème. Vaishkar Israël et Oseu, Vaiven Eichalot, Vyehuda Irbarim Betsurot. Veshilachti esh be'arav ve'achla armenotea. Vous savez à quoi ça me fait penser ce verset? Ça me fait penser à, encore une fois, un papa qui dispute son fils, et à un moment donné, son fils il dit: ouais, mais elle aussi, ma sœur aussi, elle a fait des bêtises. Alors pour la tête de Jéhova, on dispute aussi la sœur, vite fait. Parce que oui, ne nous montrons pas, Mamlechet Yehuda est bien meilleure que Mamlechet Israël, mais elle aussi, elle a ses problèmes. Et elle aussi, de temps en temps, elle a des couchiottes. Et elle ne se comporte pas comme il faut. Alors les amis, après 2 chapitres de Tochechot terribles, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir dans cette histoire? Est-ce que on va arriver face à quelque chose de plus positif? Il y a les amis. Altismach Israël. El Gil Ka'amim. Ki zanita me'al Elohecha, ahavta etnan al kol gornot dagan. Là, on a des références complètement de Avodah Zara, de Giloui Arayot vers Avodah Zara. Al tismach Israël. Ne sois pas plein de joie et d'allégresse comme les goyim. Ki zanita me'al Elohecha. Tu as trompé Dieu. Ahavta etnan. Tu as préféré leur Dieu. Goren va yekev lo irem vetirosh yekacheshba. En d'autres termes, vous ne pensez qu'à boire et à manger. Lo yeshvu ba'aret, lo yeshvu be'eretz Hashem, veshav Ephraim Mitzrayim ube'ashur tameh yochelu. Mais c'est ube'ashur tameh yochelu. Faut savoir, et ça c'est assez incroyable, malgré la avodah zara et tout ce que tu veux, la dépravation qu'il y avait à l'époque du Bayit Rishon, la Touma et la Tahara étaient extrêmement bien respectées. C'est-à-dire que tu peux manger, tu peux faire d'idolâtrie, mais manger des animaux impurs, ça non. Il y avait à l'époque cette proximité de Touma et Tahara qui était très importante pour eux. Et donc on te dit, Yesh Touma ta Goyim, Touma ta Amim. Donc Veshav Ephraim Mitzrayim ou Be'ashur Tame Yochelu. En d'autres termes, on vous prend le dernier truc qui vous rattache à la Torah. Loïsku la Hashem Yain. La Hashem Yain. Velo yervu lo zifreyem kel lechem onim lahem. Maze lechem onim? Lechem onim, c'est le pain qu'on donne aux endeuillés. Milashon onen, celui qui a perdu un proche et qui l'a même pas encore enterré. Donc te dis, tu crois quoi? Tu crois que tous ces repas que tu vas faire bagalout, ça va te faire du bien? Non, c'est kelechem onim. Kol ochlav yitamau, ki lachmam lenafsham lo yavo bet Hashem. Ma ta'asu le yom moed, ou le yom chag Hashem. Hein, qu'est-ce que vous allez faire le yom amoed, au moment de la rencontre avec HaKadosh Baruch Hu? Be yom chag Hashem. Ma za chag? Chag HaSukot. Be yot chag Hashem. Ma ta'asu? Il y a le moment de la rencontre avec HaKadosh Baruch Hu au Bet HaMikdash. Tu vas faire quoi? Ki inne alechu mishod Mitzrayim tekabetzem mof tekaberem Mahmad lekaspam kimosh yirashem choach be'aolem. De quoi on parle? Cette névoie, elle est terrible. Si on la comprend, elle est terrible. Ki inne alechu mishod, ils sont partis de Shod, c'est une ville, pour arriver à Mitzrayim, à la ville de Mof. Mazé Mof, c'est la ville de Memphis en Égypte. Et là-bas sera votre tombeau. Ben oui, c'est tous ces juifs qui sont morts par assimilation. Mais évidemment, c'est terrible. Baou yeme apekuda. Baou yeme ashilum. Yedou Israël, Evil, Annavi, Meshuga, Isharuach, Al-Rov Avonnecha, Veraba, Masteba. Mazé, Maolerpo, vous allez devoir payer, nous dit le Navi, de ce que vous avez fait. Edmala Asot, de la même façon qu'il y a le libre arbitre, vous allez devoir payer. Tsofe Ephraim, Im Elohav, Navi Pach Yakosh, Al Kol Derachav, Mastema, Bevet Elohav. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Bémet, comment est-ce qu'on va pouvoir s'élever par rapport à tout cela? Caché Meod. Caché Meod. Emiku Shichetu, ki Meagiva. Yiskor avonam, yifkot chatotam. Dieu se rappelle de tout ce qu'on a fait. Et il se rappelle de l'époque de Giv'a. Mazé l'époque de Giv'a. Makarasham. Qu'est-ce qui s'est passé à Giv'a? Pilegesh ba Giv'a. Voilà, tout à fait. Un des événements les plus terribles du peuple juif. Et là, on te dit, yiskor avonam, yifkot chatotam. כנבים במדבר מצאתי ישראל כביקורה תהנה בתהנה כרבה ראשיתה וראיתי אבותיכם המה באו בעל פאור וינזרו לבושת ויחיו שיקוצים כאבם. J'avais tellement d'espoir dans le peuple juif. Vous étiez כנבים במדבר. Mais regardez où vous êtes tombé. בעל פאור. Au lieu d'être Nézirim pour être plus proche de Dieu, vous avez été Nézirim pour la perversion et la dépravation. Ephraim, ka'of yitofef kevodam, mi leda ou mi beten ou mi erayon. Ah, là tout d'un coup ça a l'air de changer. Ephraim, ka'of yitofef? Quoi? Ephraim peut s'élever tel un oiseau dans le ciel? Ken! Nachon, Ephraim peut être le bras droit de Yehuda. Kim yigadelu et benem, veshikaltim me adam, ki gam oy laem, besurimem. Ben oui, c'est possible s'ils le font, mais s'ils le font pas, ma aussi. Ephraim kaasher ra'iti le tzor, shetula ben nave. Ils en sont même réduits à tuer leurs propres enfants, à être des meurtriers de leurs propres enfants. Ça sera à l'époque des grandes famines qu'il y aura dans le Mamleret d'Israël. Ten laem Hashem, matiten, ten laem rechem, maskil. Veshadaim tsomekim. C'est-à-dire que ils ne pourront même plus se nourrir d'eux-mêmes. Leurs shadaim seront tsomekim, asséchés. Kol ra'atam bagilgal, ki sham senetim, al roama aleleem, mi beiti agarshem, lo osef avatam, kol sareem sorerim. Qu'est-ce qui s'est passé, Bagilgal? Qu'est-ce qui s'est passé, Bagilgal? Qu'est-ce qui s'est passé, Bagilgal, qui fait que maintenant, à Kadosh Baruch Hu, il dit ça? Bagilgal, il s'est passé plein de choses. Mais il y a eu un moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit « Altidak, c'est pas contre toi, c'est contre moi. » C'est lorsque Bnei Israël, ils ont demandé à Shmuel Melech. Et que Shmuel se dit « Ah, c'est pas bien, machin. » Et Dieu lui dit « Mais Altidak, c'est pas contre toi, c'est contre moi qui se révolte. »« Kisham senetim sanuti al roi malelem » et moi aussi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Lo sifa avatam kol sareem sorerim. Contre qui alors Akadosh Baruch Hu est très énervé? Sareem. C'est-à-dire qu'il va falloir détruire la anaga de Ephraim. Uka Ephraim shorsham yavesh. Peri bal yashun yasun. Gam ki yeledun vemati. Mechamadei bitena. Uka Ephraim, car ils ne produisent plus de fruits pour l'instant. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que ça revienne. Yim asem Elohai ki lo shamulo veyum nodedim bagoyim. Maskana. Maskana de ces trois chapitres de Tochecha Atsuma. C'est que l'objectif, au final, c'est qu'on parte Bagalout. Et alors, qu'est-ce qui va se passer, Bagalout? Qu'est-ce qui va se passer de, qui va nous servir de correction, Bagalout? On va être nodedim. Bon, ça, je pense que la notion de juif errant, j'ai besoin de l'expliquer à personne. On la connaît très bien. Mais à quoi elle sert, cette notion de juif errant, Rabotai? Eh bien, elle sert à une chose. Rappelez-vous, alors je remets juste deux secondes le texte, parce qu'il y a un mot sur lequel qu'on a survolé, et j'ai volontairement pas encore dit de quoi il s'agit, pour le garder pour la fin. Regardez, dans ce même chapitre 9, mais au verset 3, Lo yeshvu be'eretz Hashem. Lo yeshvu be'eretz Hashem, Rabotai, c'est la première fois que la terre d'Israël est appelée la terre de Dieu. Eretz Hashem, dans le livre de Hoshea, Perek Tet. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il en parle? Eh bien, vous le savez, on comprend la valeur d'une chose quand on la perd. Akadosh Baruch Hu nous dit, vous allez partir en exil. Vous serez des juifs errants là-bas. Et même lorsque vous trouverez des fois un endroit où on vous tolère, ça ne durera pas éternellement. Et là-bas, vous vous rappellerez et vous comprendrez que vous avez été chassé de Eretz Hashem. Puisque là-bas, vous comprendrez à quel point c'est lo Eretz Hashem. Quand un certain Napoléon, un certain Eric disent qu'il faut faire de Paris Jérusalem, ou alors comme certains, ben c'est ce qu'il a dit, hein. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. Ça. Quoi, Yitzhak? T'as pas l'air d'accord avec moi? C'est l'interview de la semaine dernière. Moi, je peux rien faire, c'est pas de ma faute.
Monsieur Lacache, ouvrez votre micro.
Ben oui, parce qu'on vous entend pas et je lis pas encore bien sur les lèvres. Non, vous voulez pas? Bon, en tout cas, la formule de Napoléon, elle est connue. Que pour les juifs de France qui reçoivent la citoyenneté, il faut que Paris, ça soit comme Jérusalem. Eh bien, Monsieur Zemmour, la semaine dernière, a donné dans une interview, il a expliqué cela, en disant que c'est ce qu'il souhaitait, non seulement qu'il a souhaité pour les juifs, que c'est ce que les juifs ont fait, mais il faut que ça soit la même chose pour les musulmans. Bon, ça, c'est son leitmotiv. Mais le problème, il n'est pas chez M. Zemmour. Nous connaissons très bien des communautés qui, dans le centre communautaire de Strasbourg, ont fait une grande fresque du Kotel. Il n'y a plus besoin d'aller à Jérusalem. On l'a à Strasbourg. On a une petite communauté qui compte quelques milliers de juifs dans la périphérie de Paris, Sarcelles pour ne pas la citer, qu'il se plaisait à appeler la petite Jérusalem. Bah, ce n'est pas seulement Hamoud. C'est pas Hamoud, c'est Hamour Mehod. C'est-à-dire, essayer.
Oui. Partout où les juifs ont fructifié, ont été dans un état, disons, normal, et qu'ils ont pu pratiquer leur religion normalement et sereinement, on appelait toujours la Jérusalem. Moi, je m'appelle en Algérie Constantine aussi, on appelait Jérusalem.
Et je suis tellement d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À Vilna, pareil, tout à fait, Vilna, pareil. Mais c'est ça le problème. C'est le problème, les amis. J'ai cité Strasbourg et Sarcelles parce qu'on connaît ça bien en tant que Français. Mais vous avez tout à fait raison. C'était pas que à Strasbourg ou à Sarcelles. C'était en Algérie, c'était à Vilna, c'était bien sûr. Bien, mais c'est ça le problème.
Évidemment. Il y a une alia sur Metz. Les gens font leur alliance.
Oui, non, mais Metz, c'est différent. Metz, c'est Bessédère.
Ah. Il y a Monsieur Fison là-bas, il y a le rabbin Fison là-bas.
Non, c'est bon, Metz, c'est Kodesh Kodashim. On a le droit d'aller à Metz.
Ah, d'accord.
Vous rigolez, madame, mais je vais vous dire un truc. Petite anecdote pour terminer sur une note plus positive que Hoshea aujourd'hui, parce qu'il nous a bien plombé. Lorsque je suis arrivé en Israël, la première année, eh bien, on avait un cours avec le Rav Cherki et on étudiait Ilchot Melachim. Et à l'approche de Pessah, je crois que c'était vraiment une semaine avant les vacances de Pessah, eh bien, le Rav nous dit « Alors, qui c'est qui a rien compris à 6 mois d'études et qui va retourner en Gaule pour Pessah ?» Alors maintenant, dans le cours, c'était un cours en hébreu pour les Français. Donc on était très peu nombreux et tous les gens du cours avaient déjà leur famille en Israël, sauf moi. Donc j'ai levé la main en disant « Bah, moi j'y vais ». Et il m'a dit « Non, mais toi, c'est pas pareil, toi, t'as le droit ». Alors j'ai dit « Ah ben c'est sympa, mais pourquoi ?» Il dit « Parce que toi, tu viens de Metz ». Alors j'ai dit « Oui, alors ?» Il dit « Bah, l'une des raisons, d'après le Rambam, pour lesquelles on a le droit de partir d'Israël, vous savez, il y a trois raisons, c'est la Parnassa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail en Israël, je suis en train de mourir de faim, donc j'ai le droit ». Ou alors, il n'y a aucune jeune fille célibataire en Israël, je ne peux pas me marier avec une juive, donc ça j'ai le droit aussi. Ou alors, pour étudier une Torah ou réaliser une Torah que je ne peux pas faire en Israël. Eh bien, les amis, sachez qu'il m'a dit, donc toi tu vas à Metz. Or, à Metz, c'est le seul endroit dans le monde où on peut faire une bracha qu'on ne fait pas ailleurs. Eh oui. Car au XIIe siècle, Rabbi Eliezer de Metz, un des Baalei Tosafot, a dit qu'il fallait, à la Chalemaase, dire la bracha dans les brachot du matin, Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Magbia Shefalim. C'est une bracha qui est mentionnée dans le Talmud, mais qu'on ne dit pas, et que Rabbi Eliezer de Metz, il a dit, il faut la dire. Et donc, à Metz, on dit cette bracha-là dans les brachot du matin. D'ailleurs, dans certains sidurim, les sidurim bloquent. Il y avait marqué « À Metz, on ajoute » et on rajoutait cette bracha-là. Donc il m'a dit « Voilà, tu vas là-bas pour faire cette bracha-là, sinon on peut la faire nulle part ailleurs. » Donc j'ai dit « À Metz, c'est Bessader. » Bon, mais personne ne pense que Metz, c'est Jérusalem, je te rassure. C'est-à-dire, donc il est évident que la question, elle est là. La question, elle est là. « Eretz Hashem, c'est dans Hoshéa Hanavi, dans notre chapitre 9. » Et si tu as oublié quelle était Eretz Hashem, eh bien, la galoute va te le rappeler. Et c'est pour ça que 2000 ans d'exil n'ont pas su éteindre la flamme du Leshana Abba Birushalayim. Et même ceux qui étaient dans leur petite Jérusalem continuaient à dire l'an prochain à Jérusalem pour revenir dans la grande Jérusalem. Peut-être que c'est ça l'espoir donné par Hoshéa en cette fin de chapitre 9 pour nous dire Tov, nounou, rattachez-vous à quelque chose. Vous avez tout perdu. Et maintenant que vous allez être envoyé là-bas, peut-être que vous arriverez à vous rattacher à ce que vous avez perdu. Alors les amis, il nous reste 4 chapitres que nous terminerons la semaine prochaine. que nous terminons dans notre prochain cours. Et je vous rassure, le dernier chapitre de Hoshéa nous ramènera dans la Simcha, Bezrat Hashem. Mais ça, ça sera la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions?
Je peux avoir un témoignage?
Je vous en prie.
Oui. Je suis passé par Cracovie, dans la rue principale où il y avait tous les bouchers. Et j'ai prié dans la synagogue qui est à côté, il y a une vingtaine d'années. J'étais à Auschwitz, à Cracovie. Et là, il y avait encore des juifs à l'époque. Il y avait même un millénaire qui priait.
Non, il y a encore des juifs à Cracovie. Oui. Il y a encore une communauté juive à Cracovie.
Oui.
Il y a un minyan tous
les
jours. Mais vous savez, un minyan de 10 personnes comparé à ce que c'était Cracovie avant la guerre.
Je sais. Le cimetière était
voilà.
Spécial. Hein.
Ben oui.
Oui. Oui.
Tout à fait.
Votre exposé était très bien parce qu'il m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup d'histoires dans cette prophétie.
Eh ben oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Ethan.
Chazak Ubaruch.
Chazak Ubaruch. Hop, hein.
Recording stop.
Et une question, Eretz Hashem, t'as dit dans tout le Tanakh, c'est la première fois que c'est ici?
Exactement.
Ou dans le tien?
Non, dans le Tanakh.
Dans toute la...
Okay. C'est-à-dire que... Il est mentionné dans d'autres Nevi'im, mais chronologiquement, le premier qui va le dire, c'est Hoshéa.
Chronologiquement, ok.
Voilà. Hazak Ubaruch. Kol Tov.
Amashto. Neitrot Laila Tov.
Dans 14 minutes, on continue.